explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien moi j'y vais, je plonge.
Le temps d'un bivouac.
C'est l'histoire d'un architecte qui, pour son métier, s'est rendu dans des villes du monde entier. De projets d'aménagement, en voyage d'études, il s'est aperçu que sur tous les continents, les mégapoles abritent une flore et une faune sauvage insoupçonnées. Ce sont d'abord les plus grosses bêtes de ces écosystèmes urbains qui ont retenu son attention, tels les sangliers de Berlin, les coyotes de Chicago ou encore les léopards de Bombay. Puis l'œil de notre architecte, Nicolas Gilsoul, s'est porté sur des habitantes plus discrètes, mais dont la présence n'a rien d'anecdotique. Les plantes, belles de nuit, lierres, pissenlits et même lotus sacrés, qu'on leur ait aménagé un espace où qu'elles se soient faites leur place en perçant l'asphalte, les plantes des villes déploient des trésors d'ingéniosité à faire pâlir de jalousie tous les ingénieurs du monde. Pour Nicolas Gilsoul, cette flore urbaine et les bêtes qu'elles invitent dans leur sillage sont une source inépuisable d'émerveillement et de questionnement sur notre rapport au vivant. Dans un livre intitulé Chlorophylle et bêtes de ville aux éditions Fayard, il raconte ce que ses voyages lui ont appris sur ces écosystèmes qui se tissent dans les replis des cités du monde. Cet après-midi, de Rome à Toronto, en passant par Paris, Nicolas Gilsoul nous emmène dans un étonnant voyage naturaliste au cœur de nos villes, à la rencontre des plantes et des bêtes qui y ont élu domicile. Claire Tesser m'a aidé à préparer cette émission, Étienne Bertin la réalise, avec à la technique aujourd'hui Clément Vuillet. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Eh bien, oui. Sur le quai, ça s'appelle le quai de Rive-Neuve, ici à Marseille.
Quai de Rive-Neuve, au bord du Vieux-Port.
Et alors là, il n'y a qu'à se promener le long du trottoir et on trouve déjà une infinité de variétés.
On trouve son repas.
Son repas, pourquoi? Parce que ce sont des plantes comestibles
en plus. Ce sont toutes des plantes comestibles, pratiquement toutes. Et c'est la flore la plus classique des terrains vagues, en fait, et du bord des lieux habités, avec une laitue, la forme sauvage de la scarole. La Lactuca seriola des botanistes. Donc c'est une excellente salade. Effectivement, il vaut mieux pas la ramasser entre les mégots, les fragments de casse à poisson, etc. Alors, il y a aussi la stellaire intermédiaire, qui est la plante un peu rampante, qui est là. Il y a encore un laiteron. Ce sont des plantes qui ont des graines extrêmement légères, équipées d'une aigrette, un petit parachute ascensionnel. Et dès qu'elles trouvent une parcelle de sol un peu nue, elles s'installent. Alors là, il semble qu'il n'y ait pas de sol du tout. Et en fait, dans les fragments du macadam, c'est une espèce d'asphalte, oui. Elles arrivent quand même à s'infiltrer, profitent d'une pluie pour développer leurs racines. Et puis, elles se développent. Elles sont très rustiques en même temps, quoi, capables de s'implanter sur des sols relativement pauvres.
Bonjour Nicolas Gilsoul.
Bonjour Daniel.
Nous venons d'entendre l'ethnobotaniste Pierre Liotagui montrant quelques-unes des plantes sauvages qui poussent dans les replis de la ville de Marseille. Comment l'architecte que vous êtes s'est pris de passion pour ces plantes qui poussent dans les interstices de nos villes ?
C'est une vieille passion. C'est une passion très ancienne qui remonte à l'enfance. Parce que j'ai grandi en allant dans les montagnes, dans les alpages quand j'étais petit. Ça a commencé là. Et puis c'est vrai que je me suis rendu compte que dans les villes, il y avait des plantes que je connaissais pas. Ou que je connaissais mal, ou que je croyais connaître. Le pissenlit, je croyais le connaître, je croyais vraiment bien le connaître. Et puis je me suis rendu compte en l'étudiant qu'il est tout à fait extraordinaire, capable de faire des voyages hallucinants.
Ouais. Les pissenlits, vous dites, on les retrouve partout, hein, de New York à Varsovie, ils s'ébrouent depuis les corniches des écrans géants de Tokyo, on les croise même dans les villes minières du cercle polaire arctique.
Absolument, on en retrouve même dans l'île de la Désolation, donc c'est tout un programme. Ouais. Voilà, et puis là-bas, il est devenu envahissant, parce qu'on ne s'attendait pas à le voir arriver.
Ouais. Et vous semblez effectivement émerveillé devant le pissenlit. Rien que la structure de cette plante vous émerveille, mais en tant qu'architecte, c'est-à-dire que vous allez même jusqu'à dire que il n'a rien à envier aux rosaces de certaines de nos cathédrales.
De certaines des cathédrales, bien sûr, parce qu'en fait, les feuilles sont écartées chacune d'un angle parfait de 72 degrés. Donc déjà, ça, c'est complètement dingue, parce qu'au niveau de la géométrie, c'est une formation, une composition parfaite.
Mais vous avez poussé vos investigations en vous demandant, est-ce que le pissenlit des villes est le même que le pissenlit des champs? Et là, vous avez fait des découvertes assez étonnantes.
Hein. Des découvertes très, très curieuses. Alors, c'est une équipe de Montpellier qui a monté montrer ça, je trouve ça tout à fait passionnant, c'est que dans les champs, évidemment, le pissenlit va envoyer sa graine très très loin, n'importe où, parce que de toute façon, il y a de la terre fertile partout. Alors qu'en ville, et donc dans le quartier d'Antigone à Montpellier, oui. C'est un quartier qui a été conçu par un architecte qui s'appelle Ricardo Bofill, c'est du béton partout, oui. Immense, des grandes lignes, des grands axes, et donc au pied des arbres, il y a des pissenlits qui poussent. Mais le pissenlit, s'il envoie sa graine, il n'est absolument pas certain, bon, il n'y a aucune intention là-dedans, hein. Mais c'est pour l'histoire, c'est plus facile à raconter, il n'a aucune certitude que cette graine va retomber dans de la terre fertile. Donc, au bout de quelques générations, par les choix darwiniens qu'on connaît, les graines sont devenues plus grosses et les parachutes plus petits. Comme ça, il est sûr de tomber au pied de sa mère et on a fait une génération de tanguis.
Ouais, voilà, une génération de pissenlits tanguis et la ville influence l'évolution du vivant et là, en l'occurrence, de végétation. Et ces plantes se disséminent d'autant plus facilement dans les villes de France depuis 2017 avec la mise en application de la loi Labbé qui oblige donc les municipalités à bannir les produits phytosanitaires. Ça, c'est une aubaine pour toutes ces,
c'est
ces
une
plantes
aubaine
sauvages.
Et c'est un choix politique très important et très intéressant. Alors, c'est que depuis quelques années, ouais. Mais depuis, je crois, 14 ans maintenant, la ville de Versailles avait testé ça, 12 ans la ville de Paris, et on voit les premières conséquences positives de ce système-là, non seulement sur les plantes, mais du coup, sur les insectes qui viennent butiner ces plantes, du coup, sur les oiseaux qui viennent manger des insectes ou qui viennent se réfugier ou manger des graines, etc. Et donc, c'est tout un écosystème qu'on a remis en place dans nos villes.
Ouais, ça a un peu changé l'allure de nos rues, ça a aussi changé l'allure de nos cimetières. Vous parlez dans votre ouvrage de cimetières hirsutes, et ça fait le bonheur des naturalistes, bien sûr. Pour s'en rendre compte, allons faire un tour du côté du célèbre cimetière du Père-Lachaise à Paris.
Le fait d'avoir des herbes qui poussent entre les sépultures, devant, c'est vrai que c'est pas évident à comprendre pour les concessionnaires qui ont toujours vu un cimetière relativement propre. Hein. Mais c'est pour le bien de tout le monde qu'il n'y a plus de traitement phytosanitaire. Après, on voit venir des oiseaux qu'on ne voyait plus, c'est plein d'insectes. On voit tout un tas, il y a des hérissons, on n'en voyait plus.
C'est un parc qui est non éclairé la nuit. C'est extraordinaire pour beaucoup d'espèces, à la fois les espèces nocturnes qui vont pouvoir chasser, se reproduire, et les espèces diurnes qui vont pouvoir se reposer dans un site non éclairé. Donc c'est vraiment un lieu magique pour ça. Oui.
La chauve-souris.
Pipistrelle, sans doute, en vol.
Au niveau naturaliste, on voit aussi les différentes pierres. On ne voit pas les mêmes végétaux sur du granit ou sur du marbre, sur du calcaire. Il y a des tombes qui ne sont pas visitées depuis un moment. Donc, en plus, il y a une diversité de minéraux tout à fait artificiels, mais qui amènent une faune et même une flore différente. Quoi.
Ah oui, superbe, juste là. Donc, c'est le mille-pattes qui est le plus rapide d'Europe, qu'on appelle la scutigère véloce. Voilà, donc c'est un très bel animal, très bon prédateur d'arthropodes.
Extrait du documentaire « Éternel jardin, le cimetière du Père-Lachaise » diffusé sur Arte. C'est presque paradoxal, hein, mais ce cimetière est un lieu qui grouille de vie, Nicolas Gilsoul.
Qui grouille de vie, absolument. Et alors c'est amusant parce que dans l'extrait, on entend finalement la multitude de possibilités offertes par un écosystème artificiel et curieux, avec ces pierres qui viennent de partout, avec des fleurs qu'on vient mettre en berne, etc. Il y a aussi la faune qui est un peu plus grande, qui vient s'y installer et qui joue un rôle important. C'est-à-dire que tous ces oiseaux ont pu revenir effectivement grâce à la loi Labbé, enfin, et à la gestion écologique du cimetière, mais aussi au fait qu'il y a un chien sauvage dans le Père-Lachaise qui s'est un jour échappé, on ne sait pas d'où, un grand malinois doré, voilà, et lui a mis de l'ordre dans la population des chats. Donc tout ça, c'est un petit monde très compliqué à comprendre, et c'est passionnant.
Ouais, un petit écosystème, on y a même croisé des renards, paraît-il,
absolument.
Au Père-Lachaise.
Oui, récemment, oui.
Et puis il y a tous ces insectes dont vous parliez, et ça, ces associations plantes-insectes, elles vous passionnent, vous y consacrez plusieurs chapitres, elles sont assez spécifiques. Ce qui a conduit les habitants de grandes villes du Canada, comme Toronto par exemple, à se mobiliser pour le papillon monarque, racontez.
Oui, c'est une très très belle histoire, et les Canadiens ils m'ont vachement ému là-dessus, parce que c'est un petit papillon qui fait un demi-gramme, il est orange, avec des nervures noires, il est très très beau. Et il a une volonté de faire parce qu'il fait un voyage, une migration, qui va du Mexique jusqu'au Canada. Donc 5000 kilomètres pour un petit être qui fait un demi-gramme. Ouais. C'est quand même pas mal.
En plusieurs générations.
Alors, hein. En plusieurs générations, sur l'allée.
Sur l'allée.
Voilà, jusqu'au Canada. Et puis il revient dardard au Mexique en une génération.
Ouais. C'est-à-dire qu'il hiberne au Mexique et après il revient en une seule fois. C'est un périple incroyable.
C'est un plan de vol complètement dingue. Et évidemment, sur ce plan de vol, il va traverser des zones qui sont notamment les grands champs monospécifiques du Texas ou les forêts qui ont été coupées au Mexique, etc. Donc il y a des zones qui ont été très fort abîmées au niveau écologique. Et pour survivre, les chenilles de ce papillon vont manger particulièrement une plante qu'on appelle l'asclépiade, qui était une espèce de plante sauvage. Maintenant, on dirait une mauvaise herbe, puis on ne le dirait plus. Voilà, une asclépiade, et, parce qu'elle est très nourrissante et qu'elle fleurit très tard dans la saison. Cette asclépiade, elle avait disparu à cause des insecticides, à cause des pesticides, à cause du traitement grand champ, etc. Et les Canadiens qui adorent, notamment à Toronto, venir voir l'arrivée de ces papillons. Alors c'est très émouvant, hein, parce que c'est à pointe pelée, c'est très très émouvant. Vous entendez le battement d'ailes des papillons quand ils se posent sur les arbres.
Tellement ils sont nombreux.
Tellement ils sont nombreux. Ça fait une espèce de nuage et ça fait un bruit très très particulier de bruissement. C'est un truc qui retourne le cœur, quoi. Voilà.
Et quand ils se posent sur les arbres, ça fait des grappes.
Ça fait des grappes. On voit plus les troncs. On voit plus les troncs, donc on a l'impression que les troncs pétillent, on va dire, vibrent. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est vraiment merveilleux. Et donc, pour les citadins, c'est génial d'aller voir ce spectacle. Et ce papillon a failli disparaître. Donc, les Canadiens se sont mobilisés. Ils ont appris que l'asclépiade pouvait servir les chenilles royales, princières, à survivre dans ce voyage. Et donc, ils ont commencé à replanter ces asclépiades dans les jardins privés, dans les jardins associatifs, dans les friches, dans les parcs. Les espaces verts ont utilisé cette plante-là aussi. Alors, ça fait un boom incroyable, donc chez les vendeurs de plantes, un retour de cette asclépiade qui revenait avec 120 couleurs différentes, enfin des trucs de dingue, voilà. Et petit à petit, de jardins en association et d'associations en parc public, ça a fait un réseau, ça a fait une trame qui aide le papillon monarque à aller jusque-là. Ça, c'est génial. Mais évidemment, on s'est rendu compte que toutes ces plantes avaient d'autres propriétés incroyables. Donc, on l'a redécouverte. Et les ingénieurs, notamment, l'ont redécouverte. On s'est rendu compte, notamment, quand dans une cosse d'asclépiade, il y avait une soie très, très fine, magnifique. Et on peut tisser jusqu'à 5000 mètres de soie avec une cosse d'asclépiade. Donc maintenant, on en fait des doudounes au Canada, notamment pour les gardes-côtes, etc. On l'utilise pour éponger les nappes de pétrole des bateaux. Et donc, évidemment, on plante maintenant de manière massive l'asclépiade.
Oui. C'est-à-dire que cette plante, qui était considérée comme une mauvaise herbe et qui avait disparu, c'est un papillon qui a donné le goût de la replanter. Finalement, maintenant, elle se vend au prix des céréales. Ça n'est plus du tout considéré comme une mauvaise herbe. Tout ça pour le battement d'aile d'un papillon.
Tout ça pour le battement d'aile d'un papillon.
Ouais, c'est beau, hein, ce genre d'histoire que vous racontez dans votre ouvrage. Dans les replis des villes de France et d'ailleurs se dissimulent une flore et une faune insoupçonnées. Vous allez nous raconter ce que vos voyages à travers les cités du monde vous ont appris. Le temps d'un bivouac dans la jungle urbaine avec l'architecte paysagiste Nicolas Gilles Soul cet après-midi sur France Inter. I'm not afraid to C'était Stabilize, chanté par Nilufer Yania sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
Buongiorno Simone.
Buongiorno.
Bonjour.
Buongiorno.
Alors Simon, vous êtes l'un des 6 jardiniers de la Villa Médicis. Expliquez-nous concrètement en quoi consiste votre travail sur ces 8 hectares de jardin.
Dove ci sono svariati lavori.
Il y a différents travaux à faire sur ce terrain. Il y a quelques années, on a développé ici un potager avec des plantes médicinales curatives et des plantes d'ornement. Tout doit être en harmonie selon les différentes saisons. Ça requiert beaucoup de temps, beaucoup de passion et de l'amour. Il y a un fort lien entre la façade de la villa et le jardin comme un prolongement. Le jardin doit embrasser la villa parce que c'est la vitrine de l'Académie de France.
Nous voilà donc arrivés dans le jardin de la Villa Médicis à Rome, qui héberge l'Académie de France et accueille régulièrement des artistes en résidence. Notre invité, l'architecte Nicolas Gilsoul, a eu la chance d'y séjourner. Et c'est même dans les jardins de cette villa qu'il a rédigé une bonne partie de son ouvrage Chlorophylle et bêtes de ville, qui vient de paraître aux éditions Fayard. C'est un lieu inspirant pour un architecte paysagiste, la Villa Médicis à Rome, Nicolas Gilsoul.
C'est un lieu magique, ouais. Évidemment, c'est un lieu magique parce que avec un poids, une histoire, mais aussi parce qu'il est en balcon et en bascule sur la ville, donc il voit tout Rome, il domine tout Rome. Le matin, on se réveille à 6h du matin avec les perruches vertes qui commencent à faire leur concert. Quelques minutes plus tard, ce sont les goélands qui se posent et qui tous les matins font le même ballet. Puis il y a les petits oiseaux du jardin qui commencent, les passereaux à apparaître, etc.
Vous y étiez allé pour voir les étourneaux à Rome, mais quand vous êtes arrivé,
Voilà.
Cela dit, les étourneaux, parfois, ils deviennent un peu encombrants. En tout cas, les Italiens ont eu envie de s'en débarrasser de ces étourneaux de la ville.
Je les avais vus en 2000, et en 2000, il y en avait énormément. Ça faisait des nuages, c'est ce qu'on appelle les murmures, les grands nuages d'étourneaux dans le ciel. Et Rome est un des postes de spot sur leur migration. Donc, c'est des nuages énormes. Et ils faisaient des nuages immenses du côté de la gare de Termini. Et les Italiens n'en pouvaient plus, parce qu'évidemment les étourneaux lâchaient tout ce qu'ils pouvaient sur les carrosseries rutilantes des Vespa et autres voitures qui étaient en dessous. Donc la municipalité a inventé un système, et plutôt malin finalement, pour se débarrasser des étourneaux, qui était de faire passer des camions avec des grands haut-parleurs dans lesquels on entendait le cri du jet, parce que le jet est un des prédateurs de l'étourneau. Donc ça faisait fuir les étourneaux un peu plus loin. Bon, entre-temps, ils sont revenus. Donc ça n'a pas vraiment été très efficace, mais l'idée était plutôt belle.
Ouais. Ça montre quand même toute cette difficulté de côtoyer ces écosystèmes au sein de la ville. Alors au Vatican, c'est avec un goéland qu'on a eu un problème.
Non, je ris, mais c'est terrible comme histoire.
Ah bah, il n'est plus en odeur de sainteté, ce goéland.
Ah non, c'est certain, c'était terrible. C'était pendant la guerre, le conflit avec Sarajevo. Le pape décide de faire un appel à la paix, il sort de son balcon et l'achète colombes blanches. Et les colombes blanches, elles ont fait 2 mètres 50 dans le ciel, et puis elles se sont fait décapiter en vol par un goéland affamé. Donc évidemment, ça l'a un petit peu plombé l'atmosphère, et depuis ça m'a beaucoup amusé, parce que j'ai appris que les édiles du Vatican conseillaient au pape de changer absolument et de plus envoyer des colombes blanches, parce que leur plumage tranche trop sur l'ocre des façades de Rome, et donc ce sont des cibles ambulantes. Bon, le vrai problème, c'est le goéland. Mais le vrai problème du goéland, c'est que le goéland a affamé parce qu'on a fait des décharges à ciel ouvert, qu'on les a amenés depuis les côtes, qu'on a détruit leur habitat sur le littoral. Et donc forcément, maintenant, le goéland est devenu un animal urbain.
C'est difficile pour un oiseau de se nourrir en ville ?
Non, c'est plus facile parfois que se nourrir à la campagne. Alors ça dépend évidemment de quoi ils se nourrissent. Ouais. Parce que quand vous regardez la forme des becs des oiseaux, par exemple, on se rend compte qu'il y en a qui ont des becs qui sont adaptés pour casser des graines, d'autres qui sont adaptés pour aller chercher des petits insectes dans les troncs, et d'autres encore pour aller chercher à la spatule des petits vers et des petites larves dans l'eau. Et puis pour ça, ils ont des grandes pattes. Donc évidemment, pour ceux qui sont trop spécialisés, c'est très compliqué. Pour les opportunistes, comme chez les humains, en ville, c'est parfait, parce qu'on trouve de tout, et on trouve en quantité. On trouve aussi de la chaleur et assez peu de prédateurs naturels.
Donc les villes sont plutôt accueillantes.
Ce sont des refuges. Aujourd'hui, ce sont des refuges.
Ouais. Aujourd'hui, les villes sont des refuges pour des oiseaux. Ça paraît presque contre-intuitif.
Hein. Ça paraît très curieux, surtout quand on lit des chiffres sur le nombre de plusieurs millions d'oiseaux qui se cassent le cou sur les façades vitrées chaque année aux États-Unis, etc. Donc il y a des obstacles, il y a des choses qui sont très évidemment difficiles pour eux. Mais aujourd'hui, face aux campagnes monospécifiques sous pesticides, ce sont devenus des refuges.
Il y a des espèces d'arbres à planter. Je crois que vous êtes penché sur cette question-là. Qu'est-ce qu'il faut planter dans une ville pour accueillir le mieux les oiseaux ? Sachant que la végétation, c'est pas uniquement pour la nourriture, c'est aussi évidemment pour le gîte. Voilà, hein. Il faut qu'ils puissent se construire leur petit nid douillet. Et c'est aussi pour leurs ablutions. Hein. Vous expliquez.
Oui, c'est ce que j'appelle le cabaret des oiseaux. Alors, cabaret des oiseaux, en fait, c'est une plante qui les nourrit en partie haute. Le pinson, par exemple, adore manger ses graines. C'est une espèce de plante sauvage. C'est la cardère, c'est un truc assez haut. Et puis, de chaque côté de la tige, il y a deux feuilles qui sont enroulées et qui retiennent l'eau de pluie. Et ça fait des baignoires, ce qu'on appelle les baignoires de Vénus, ou le cabaret des oiseaux. Alors ça, c'est assez beau. Mais il y en a plein. Par exemple, le lierre est une plante qui va accueillir jusqu'à 700 espèces animales différentes. Pas que des oiseaux, mais animales différentes. Moi, je m'étais posé la question parce que, évidemment, dans mes projets, j'en utilise des plantes. Ouais. Et puis, un jour, c'est un gamin qui m'a demandé ça et qui m'a dit, qu'est-ce qu'on peut faire, après le confinement, qu'est-ce qu'on peut faire pour leur faire plaisir aux oiseaux? Évidemment, pas leur donner du chocolat. Donc, je me suis dit, peut-être que, voilà, quelles sont les plantes qui peuvent, et puis, interagir entre elles et former un véritable écosystème.
Et alors, il y a une réponse à cette question? Qu'est-ce qu'il faut planter?
Mais il y en a plein. En fait, si vous plantez toute une série d'espèces de plantes avec des graines ou avec des fruits, ça va plaire à une grande quantité d'oiseaux. Ils vont pas la manger de la même façon. Par exemple, les fruits de l'églantier, du rosier sauvage, certains vont déchirer le fruit parce qu'ils vont manger la pulpe, et d'autres vont manger le noyau qui est dedans, ou la graine qui est dedans. Ensuite, il y en a qui vont attirer les insectes. Alors, il y en a qui vont avoir des parfums affreux, comme certains arômes, mais ils vont attirer les mouches, et ces mouches vont attirer des oiseaux. Donc, ça nous intéresse au deuxième plan. Et puis, il y a le gîte. C'est-à-dire comment accueillir. Donc plus c'est touffu, plus c'est protecteur, plus c'est en hauteur, plus le feuillage va les protéger, va les... Voilà, ça c'est génial.
Parfois, la meilleure façon de laisser les animaux et les végétaux s'installer en ville, eh bien c'est de ne pas intervenir. C'est la philosophie en tout cas du jardinier paysagiste Gilles Clément. Le voici défendant le concept de tiers-paysage qui lui tient tant à cœur.
Alors le tiers-paysage, c'est justement l'espace où on ne fait rien. Là, il n'y a pas de jardinage, mais c'est un délaissé. L'histoire laisse faire. Même en ville, bien sûr, il y a énormément de délaissés en ville, c'est très bien. Et c'est là qu'on voit le plus de diversité, comme toujours. Mais c'est très dur de faire accepter aux gestionnaires de la ville, aux responsables et aux politiques, le fait de ne rien faire et de dire non, c'est un trésor ce que vous avez là. Ah, mais c'est une friche. Non, c'est un trésor. On peut regarder autrement. Pourquoi ? Mais parce que ça accueille une diversité chassée de partout ailleurs. C'est ça, le tiers-paysage. J'ai vu comme ça, sur des redans involontaires de l'architecture, des tout petits parties horizontales, à très haute altitude même parfois, des choses qui poussent. J'ai vu des ombiliques, qui sont des petites plantes crassulacées magnifiques, qui poussent dans les fissures comme ça, suspendues. Il n'y avait pas de sol, il n'y avait pas de terre. Les racines se nourrissent juste de ce béton en décomposition lente, sous l'effet de la pluie, de la dissolution. C'est parfait. Tout le monde ne se contente pas de ça, mais il y a des espèces qui sont capables de pousser là. Et je dirais qu'elle est même plus riche, cette diversité, en sol pauvre.
Le jardinier paysagiste Gilles Clément, chez nos amis de France Culture en 2018. Vous êtes sensible au discours de ce jardinier paysagiste.
Oui, c'est un ami, c'est un très grand ami. Gilles, il est génial, c'est lui qui m'a ouvert les yeux sur ce monde-là. Moi, je venais de l'architecture et il m'a ouvert les yeux sur ce monde-là, bien sûr.
Parce que c'est pas vraiment une idée qui a le vent en poupe chez les architectes, cette idée qu'il faut laisser les plantes pousser librement sur les façades et puis laisser un peu la nature s'approprier la ville.
Oui, c'est assez marrant ce complexe de la maîtrise complète qu'ont les architectes. Ouais. En réalité, quand on commence à étudier la nature et les éléments naturels, qu'ils soient végétaux ou animaux, on se rend compte que cette part d'aléatoire, elle est très très grande. On n'arrivera pas à la contrôler. De toute façon, elle nous échappe toujours. Donc quoi qu'on prévoie dans un jardin, quoi qu'on prévoie dans un espace public, il y a toujours quelqu'un, un être, qui va inventer quelque chose d'autre et qui va faire détourner le chemin. C'est ça qui est passionnant. C'est là où Gilles est extraordinaire, c'est que il observe avant de jardiner. Il dit à un moment donné même que la meilleure façon de jardiner, c'est probablement d'observer.
Ouais. Et alors, il y a aussi chez les architectes certaines plantes qui clairement sont assez mal vues, ont mauvaise réputation. Les plantes grimpantes et parmi elles, le lierre. Vous citez des architectes qui, par le passé, disaient en gros, ces plantes grimpantes, c'est quand on a mal fait le boulot, c'est une façon de cacher la misère.
Oui, oui, c'est Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright, c'est le père, donc c'est l'équivalent du Corbusier aux États-Unis, c'est le père du modernisme aux États-Unis. Et il disait ça, voilà, quand on plante du lierre, c'est pour cacher les erreurs. Et c'est quelque chose qui vient de très loin, parce que Pline déjà disait que le lierre était une plante parasite, alors que non, absolument pas. Oui. Il ne fait que s'accrocher. Et il est extraordinaire, c'est une liane tropicale qui vient de la préhistoire et qui nous est arrivée jusqu'à présent. Et elle tient la route parce qu'elle est notamment scototrope.
Alors, scototrope, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est dément comme mot. Ouais. Elle a choisi le côté obscur de la force, c'est-à-dire qu'elle avance vers l'obscurité. En fait, le lierre, c'est quelque chose qui tapisse au sol quand il est jeune, qui avance dans la forêt, au niveau du sol, et qui, pour devenir adulte, c'est-à-dire pour se reproduire, a besoin de grimper en hauteur et d'aller chercher la lumière. Donc, dans la forêt, pour grimper à hauteur, il faut s'accrocher à un tronc. Et donc, le lierre est scototrope, c'est-à-dire qu'il va avancer dans l'ombre du tronc, l'ombre projetée du tronc, et forcément, il va finir par trouver le tronc sur lequel il s'enroule. Donc, ça, c'est assez dément. Mmh. Donc, 700 espèces différentes, ouais, animales et végétales, qui peuvent être accueillies dans ce lierre. Ouais. C'est un vrai écosystème, c'est dément. Ouais. Alors pour les archis, c'est hyper emmerdant, parce que ça n'a pas beaucoup de couleurs, ça ne bouge pas trop. Ouais. Voilà. Vous et on a peur que ça détruise l'architecture.
Alors qu'en fait, non. Vous êtes admiratif, parce que vous dites que ça peut faire jusqu'à 100 mètres de long, grimper jusqu'au 12e étage, vivre facilement 100 ans, voire un millénaire dans certaines conditions. Pour vous, c'est une... La structure de cette plante, la façon dont elle s'accroche, c'est un rêve pour
c'est
Godzilla, là,
c'est un truc, c'est un super-héros, quoi. Il a tous les pouvoirs, ouais, non, c'est sûr.
Mais pour les architectes, c'est le dernier recours. C'est-à-dire, quand on n'a pas pu mettre quelque chose avec des fleurs ou qui sent bon, ou qu'il n'y avait que ce truc-là qu'on pouvait mettre, on met du lierre, mais c'est vraiment à contre-cœur.
Oui, et alors c'est assez amusant parce que souvent, je vois sur certaines architectures qu'on met du lierre, mais en fait, avant, ils ont tendu une maille métallique en pensant que ça va aider le lierre à grimper, alors que le lierre ne grimpe pas du tout comme ça, parce qu'il s'accroche au contraire. Donc, si vous mettez une maille métallique, il ne tient pas.
Oui, mais alors, il s'accroche et il ne détruit pas, parce qu'on a tous cette idée que le lierre, ça fait tomber en ruine les maisons, ça abîme les murs.
Non, non. En réalité, je vais m'appuyer sur quelqu'un qui est probablement, à mes yeux, l'architecte des bâtiments de France par excellence, c'est Viollet-le-Duc. Lui, il adorait le lierre, voilà, au contraire à pas mal d'architectes des bâtiments de France aujourd'hui qui en ont très peur. Non, ce qu'il y a, c'est que si le lierre s'accroche sur un mur qui est ancien, abîmé en pierre, dont les joints sont effrités, sont abîmés, il va aller chercher, non, rien à manger, pas à boire, ni rien, mais il va s'accrocher sur une surface qui est abîmée. Et si une copropriété pense sauver le bâtiment en arrachant l'ierre, ils vont forcément arracher les pierres qui viennent avec. Mm-hmm. Parce que c'est extrêmement puissant.
Donc c'est en l'arrachant, en fait, qu'on abîme le mur.
Mais au contraire, sinon, il le protège.
Et sur un mur sain, le lierre ne fait pas de dégâts.
Non, et il est extrêmement protecteur.
Bon, vous nous réconciliez avec le lierre.
J'espère.
Bon, vous avez cité Viollet-le-Duc. On va y revenir parce que l'architecte que vous êtes, Nicolas Gilsoul, s'intéresse aussi au végétal comme matériau de construction. Et vous consacrez tout un chapitre à une forêt un peu particulière, celle de Notre-Dame. C'est ainsi que l'on surnommait sa charpente. Vous vous êtes rendu dans l'une des forêts où les chênes ont été sélectionnés pour reconstruire cette charpente. Vous allez nous raconter ça dans la suite du Temps d'un bivouac.
Pas turbo et j'ai pas d'hélice.
C'était Miel de montagne, trop vite.
Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Il y en a 58 dans la forêt de Ferrières-en-Brie. 58 troncs de chêne de plus de 10 mètres de long, tous destinés à la reconstruction à l'identique de la flèche de Notre-Dame de Viollet-le-Duc.
C'est déjà une très belle utilisation et encore plus noble sur Notre-Dame, on est d'accord.
Une émotion particulière ?
Oui, forcément, bien sûr, très fier.
Le cahier des charges des monuments historiques était précis, des troncs droits, sans nœuds et d'un diamètre conséquent, 1,10 m pour les plus gros.
Un chêne croît de 0,5 mm par an sur le diamètre, c'est un chêne là qui fait 90 cm de diamètre, donc c'est un arbre qui avait 180 ans à peu près.
Ces chênes ont été abattus en mars dernier, avant la montée de sève. Des arbres qui, pour la régénération de la forêt, auraient été de toute façon coupés.
Protéger l'environnement et protéger les arbres qu'on abat sans faire de dégâts. Parce qu'on savait que c'était pour Notre-Dame et il fallait faire attention.
Extrait d'un reportage de TF1, nous étions donc dans la forêt de Ferrières. Notre invité, l'architecte Nicolas Gilsoul, s'est rendu dans cette forêt pour savoir comment ces chênes avaient été choisis pour reconstruire la charpente de Notre-Dame. Qu'est-ce qui vous a poussé à partir sur la piste de ces chênes, Nicolas Gilsoul ?
C'est assez fascinant de se dire que finalement, sur les 1300 chênes nécessaires, il y en a une soixantaine qui viennent de la région parisienne. Donc j'ai essayé de comprendre de quelle forêt il venait, et c'est une forêt publique. C'est une forêt qui est entourée par 9 communes, donc il y a une pression immobilière assez forte, il y a des autoroutes, il y a des machins, tout le monde veut venir faire du quad le week-end et compagnie. En même temps, il y a une gestion très particulière. Et donc je me suis dit, comment est-ce qu'on choisit des chênes pour remplacer la forêt d'une cathédrale de Viollet-le-Duc ? Et c'est assez extraordinaire parce que j'entendais autour de moi dire, on va pas abattre une forêt pour refaire cette cathédrale alors qu'on pourrait la faire en béton, alors qu'on pourrait la faire en acier, alors qu'on pourrait la faire en verre, en cristal, tout ce qu'on a vu passer dans les projets. Et donc j'ai essayé de comprendre si effectivement on avait abattu toute une forêt. Donc à Ferrières, on en a abattu 58. En fait, il en fallait 60. Il y en avait deux qui étaient déjà tombés avec une tempête, donc ils les ont pris. Voilà, parfait. Et puis, c'est vrai qu'en rencontrant le forestier Loïc Héon de cet endroit, gestionnaire de l'Agence des espaces verts d'Île-de-France, il m'a expliqué. Et on est allé dans la forêt, j'ai vu les oiseaux qui y habitaient. J'ai vu le soin qu'ils prenaient à choisir des arbres. J'ai vu les mousses, j'ai vu les insectes particuliers qui y habitaient. Et ça, c'est un milieu incroyable, ouais, aux portes de Paris.
Et comment on a choisi donc les 58 troncs debout et les deux qui étaient déjà tombés avec la tempête?
Oui.
Ces arbres, comment on les a choisis sans que ça défigure la forêt? Sur quels critères on a choisi ces arbres?
Alors oui, on a entendu, il y avait un cahier des charges qui était très précis, il fallait qu'il soit droit, machin, etc. Mais au-delà de ça, en fait, ça s'est passé en trois temps. Le premier temps, c'est ce qu'on appelle le martelage.
Ouais.
Dans le jargon. Le martelage, il faut imaginer une équipe de trois forestiers qui avancent en ligne dans cette forêt avec une tablette, avec les yeux grands ouverts. Et ils avancent et ils regardent la forêt, ils observent. Et là, ils choisissent des arbres. Ils voient des arbres qui sont capables de tomber ou d'être couchés sans détruire les autres autour, sans détruire d'autres habitats autour. Ils voient des arbres qui sont capables, s'ils sont prélevés, s'ils sont retirés, d'amener de la lumière, de créer des clairières et de faire pousser les futaies qui sont en dessous plus vite. Ils choisissent, voilà, comme ça, des arbres qui ont un potentiel à régénérer la forêt ou à la faire stimuler.
Donc c'est des arbres qui de toute façon auraient été prélevés pour d'autres types de constructions si ça n'avait pas été pour Notre-Dame.
C'est une des questions que j'ai posées à Loïc en premier. Je lui ai dit oui, mais ok, vous pensez pas que c'est quand même abattre un arbre, c'est déjà dur. Ouais. Abattre un chêne, c'est un monde, un chêne. Ouais. C'est hyper dur. En abattre 60, c'est quand même très compliqué.
Des chênes qui ont presque 200 ans, hein,
voilà,
pour la
c'est
plupart.
Ça. Et il m'a dit, vous préférez quoi? Que ça devienne la forêt de Notre-Dame ou que ça devienne un tonneau pour contenir du vin? Bon, bah, ok, moi, mon choix, il a été très rapide.
Oui. Donc pour vous.
Ils étaient destinés. Ouais. À être abattu, parce que je rappelle ça, c'est une forêt productive.
Donc pour vous, l'architecte, c'est une bonne chose qu'on ait reconstruit cette charpente en chêne?
Bien sûr, c'est extraordinaire. Ouais. Et c'est un savoir-faire incroyable. Et voilà, je pense que maintenant, on va mettre en plus toutes les précautions et les sécurités qu'il faut pour que ça ne brûle pas.
Ça va prendre combien de temps de construire cette charpente?
Alors, je ne sais pas, 3-4 ans, d'après ce que j'ai compris, c'est très long, parce qu'il y a la flèche qui est très particulière.
Et cette forêt dans le ciel, une fois qu'elle sera reconstruite, eh bien, elle va pouvoir réaccueillir toute une faune, là encore.
Oui, et là, j'ai déjà rendez-vous. Alors, et je monterai. Et j'irai voir, parce que ça m'intrigue de savoir quels sont les rapaces qui vont y prendre place, quels sont les insectes qui vont y prendre place, quels sont les petits mammifères qui vont y prendre place. Parce qu'évidemment, dans une architecture comme ça, il y a plein de recoins, de replis, d'ouvertures, de porosités. Et c'est là où toute cette faune des villes s'installe.
Ouais. C'était le cas avant. Il
bien
y
sûr.
Avait des faucons qui avaient élu domicile.
Des abeilles, il y avait tout un tas de trucs déjà. Ouais. Voilà, donc je suis très curieux de voir la forêt de Notre-Dame demain.
Ouais, une fois qu'elle aura repris ses
oui.
habitants. Alors, il y a ces animaux qu'on est heureux de voir en ville, comme les faucons, les chauves-souris. Mais il y a quand même aussi des animaux qui s'invitent en ville, alors que finalement, on n'y tenait pas tant que ça. C'était d'ailleurs le thème de votre précédent livre. Hein. Vous parliez des sangliers, mais qui étaient présents par dizaines de milliers à Berlin, enfin dans les parcs, mais qui font partie de la ville de Berlin. Vous parliez des coyotes de Chicago, des léopards de Bombay. D'où viennent-ils et pourquoi ces animaux sauvages, imposants par leur taille, élisent-ils domicile dans les grandes mégapoles du monde?
Alors je pense qu'il y a deux choses, il y a deux volets. Le premier, c'est par exemple le léopard de Mumbai, il était là. Il était dans la plus grande forêt de Bombay, et puis la ville s'est étendue autour, et il est resté là.
C'est-à-dire que Bombay est construite autour
d'une immense forêt urbaine.
Dont sortent des léopards.
Une quarantaine de léopards qui habitent là, et qui habitaient là, et qui maintenant, évidemment, posent des problèmes de copropriété, on va dire, de cohabitation. Les sangliers, ils viennent à Berlin, pourquoi? Parce qu'on a tissé des liens, et c'est ce qu'on a fait depuis le Grenelle aussi, de l'environnement, c'est les fameuses trames vertes, bleues et brunes, et puis aujourd'hui noires, avec l'obscurité. On a tissé des liens entre les cœurs de ville et les extérieurs. Donc c'est par là que les sangliers déboulent dans le cœur de Berlin.
Les trames vertes, c'est les couloirs de végétation. Les trames bleues, ce sont les cours d'eau. Et les trames noires, on veille maintenant à ce qu'en ville, on éteigne les lumières à certains endroits. Parce que ça aussi, ça fait venir de la biodiversité.
Voilà, parce que ça permet à certaines espèces de se déplacer. Alors que la lumière va les attirer, au contraire, d'autres espèces qu'on ne voudrait pas voir venir.
Oui, c'est ça. Il y a quand même quelques espèces qu'on n'a pas forcément envie de voir venir. Ce ne sont pas forcément les plus gros animaux qui posent le plus de problèmes. Dans votre dernier ouvrage, vous parlez du crapaud buffle qui a été volontairement introduit en Australie en 1935. Il est couvert de verrues toxiques. Il pullule maintenant et commence à arriver dans les villes.
Le crapaud est invasif, mais surtout c'est un danger sur pattes. Sa peau contient un venin dont les composés toxiques tuent les prédateurs qui le mangent. Partout où il passe, c'est une catastrophe écologique.
Ça pourrait tuer un humain aussi. Ça peut tout tuer. C'est un des plus grands problèmes. Il faut vraiment se tenir à distance de cette créature. C'est un survivant incroyable. Et contre ces toxines, on n'a rien. C'est un cauchemar.
En quelques semaines, les crapauds se sont répandus dans la ville de Kununurra, par dizaines de milliers. Vraisemblablement, ils s'adaptent très bien à la vie citadine. Ils se rapprochent de l'homme, insidieusement.
C'est une bataille sans fin. Ils vont être ici encore un bon bout de temps, à moins que les scientifiques trouvent un virus pour les tuer, comme on l'a fait avec les lapins.
Je ne sais pas si on va nous laisser les exterminer comme ça. La dernière fois, quand on s'est débarrassé des lapins en répandant de la myxomatose, on nous a dit que c'était inhumain.
Bon, les crapauds buffles ne sont pas vraiment les bienvenus en ville, en Australie, mais ils s'y sentent bien. Alors là, le reportage avait été diffusé dans Faut pas rêver en 2014. Depuis, la situation ne s'est pas franchement améliorée. Nicolas Gilsoul, vous revenez sur toute cette histoire. Pourquoi déjà les Australiens ont-ils introduit ces crapauds buffles volontairement dans leurs écosystèmes ?
Oui, parce qu'ils sont cannibales maintenant.
Pas les Australiens, non, les crapauds buffles,
oui. Alors pourquoi est-ce que les Australiens ont fait venir les crapauds buffles ? Parce que c'est souvent ça aussi, de ces espèces qu'on appelle aujourd'hui nuisibles ou invasives en général, c'est nous qui les avons fait venir. Alors pourquoi est-ce qu'on les a fait venir ? Parce qu'on voulait qu'ils dévorent un insecte qui ravageait les cultures de canne à sucre. Et quelques années plus tôt, on avait fait une expérience en Jamaïque, qui est un truc complètement dingue. Là, les cultures de canne à sucre étaient ravagées par les rats. Donc, les Jamaïcains ont imaginé de faire venir d'abord des fourmis de feu, qui devaient tuer les rats. Sauf que les fourmis de feu n'ont jamais tué les rats. Ils ont tué tous les autres petits mammifères qui étaient autour. Donc, ça n'a pas marché. Après, ils ont fait venir le furet, en disant, le furet chasse le lapin, peut-être qu'il va chasser le rat. Le furet est arrivé, il a chassé rien du tout, parce qu'il s'est fait bouffer par les serpents. Ça n'a pas marché, donc ils ont fait venir le crapaud buffle. Là, surprise, il n'a attaqué que les œufs des varans, des petits serpents, de tout un tas de trucs, mais pas les rats de nouveau. Donc en fait, c'était raté comme expérience.
Alors pourquoi on a été faire ça en Australie ?
Sauf que les Australiens ont cru que ça avait marché.
Ah, oui.
Les crapauds buffles avaient mangé des insectes. Ils se sont dit, bon, on va reprendre les mêmes. Ça mange des insectes. Nous, notre problème, c'est pas les rats, c'est les insectes. Faites entrer les crapauds buffles.
Ouais.
Sauf qu'en fait, le crapaud buffle, c'est très gros. Et les insectes qui ravagent les cultures de canne à sucre sont à peu près à 1 mètre de hauteur dans la canne à sucre. Donc le crapaud buffle n'arrive jamais à sauter jusque-là, donc il bouffe tout ce qui est autour. Encore une erreur.
Encore une erreur. Voilà. Alors, il a fait des ravages dans les écosystèmes et maintenant, il se déploie jusque dans les villes.
Bien sûr.
Qu'est-ce qu'on peut faire face à ce type d'invasion ? Parce que on l'a compris, vous êtes plutôt bienveillant face à toute cette biodiversité, mais là, bon, il est quand même toxique. Hein, il a vraiment des...
Il est toxique, mais c'est toujours ça le problème. C'est le problème de la cohabitation dans nos villes. C'est-à-dire que le coyote, il est sympathique, il rend des services aussi parce que il croque les petits rats, les petits machins qui nous embêtent, ou les ratons laveurs qui mangent dans les poubelles. Mais il faut apprendre à cohabiter avec, parce que à partir du moment où on le trouve sympathique et qu'on va lui caresser le museau et qu'on va lui donner du pâté, ça va déraper. Il risque de nous mordre, il peut avoir la rage, etc. Le crapaud buffle, il est toxique, mais certains pollens de plantes vont nous faire éternuer aussi, certains insectes vont devenir insupportables. Non, le bon équilibre, d'abord, apprendre à cohabiter, et puis le bon équilibre, c'est de faire attention à ce qu'on fait rentrer dans le pays aussi, par rapport à ces invasions qu'on n'arrive plus à maîtriser après.
Suite et fin de nos exploration naturaliste dans les villes du monde avec vous, Nicolas Gilsoul. Et nous allons justement voir dans un instant que le choix des arbres que l'on plante en ville n'est pas anodin pour la santé des citadins et le développement des allergies.
Seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match here. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on, come on, and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer. In the city, in the summer, in the city. In the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on, come on, and dance all night. Just like the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer. In the city, in the summer, in the city.
C'était The Loving Spoonful qui chantait Summer in the City dans le temps d'un bivouac sur France Inter. Et c'est Valentine Chédebois qui signe notre programmation musicale.
Tu vois, ici, on est dans un quartier à majorité de vieilles personnes. Hein. C'est-à-dire que les urbanistes conçoivent des logements dits sociaux. C'est une chouette idée. Mais où je ne suis pas d'accord, et c'est là qu'est la faille, c'est comment peut-on concevoir des habitations sociales sans la moindre recherche esthétique? Ça n'est pas possible, hein? Je suis désolé, allez. Hein? Bon, ils avaient pensé à installer des cerisiers du Japon tout le long des allées. Tu vois, un peu dans le style cité balnéaire anglaise. C'est une riche idée. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait?
Non.
Si, ils l'ont fait. C'était pas mal parti. Mais ils se sont arrêtés là. Et c'est ça qui est dommage, hein? Mm-hmm. Tu vois, c'était de la poudre aux yeux. Ils ont jeté de la poudre aux yeux, les gens ont dit oui, mais non. Moi, personnellement, si j'avais dû concevoir ce genre de choses, j'aurais vu une habitation, tu vois, de plein pied, avec de grands parterres très aérés, un peu à la Frank Lloyd, typiquement dans l'esprit des habitations japonaises. Parce que ces gens-là, malgré tous leurs défauts, avaient compris beaucoup de choses.
Hein. Benoît Poulvorde, devisant sur ce que devrait être un aménagement urbain réussi dans cette arrivée près de chez vous, bien sûr. Alors ça, c'est un clin d'œil pour notre invité, l'architecte paysagiste Nicolas Gilsoul, belge lui aussi. Beaucoup de concepts nouveaux, hein, forêt urbaine, bois habité, fourrure végétale, sont maintenant dans la bouche de nombreux architectes et urbanistes. Ça correspond vraiment à des nouvelles pratiques ou c'est de l'habillage?
Je crois qu'il y a une volonté chez les très jeunes générations. Quand je parle de très jeunes générations, moi, chez les étudiants que je vois.
Ouais.
Ils sont vraiment concernés par les choses. Ce qu'on a vu récemment avec les étudiants d'AgroParisTech,
ouais,
qui ont décidé de changer complètement, de bifurquer, comme ils disent.
De remettre en cause les enseignements qu'ils avaient reçus,
voilà,
dans leur école.
Et cette décision d'eux. Et à côté de ça, il y a effectivement du greenwashing, toujours, de plus en plus. Parce que ça plaît, parce que ça correspond à un désir de nature.
Et alors, est-ce que les architectes choisissent avec beaucoup de soin les espèces végétales lorsqu'ils imaginent de nouveaux aménagements urbains? Vous êtes un peu critique avec vos collègues dans votre ouvrage, parce qu'au détour des pages, on devine que c'est souvent un peu la variable d'ajustement, qu'on se fatigue pas trop, qu'on a une liste assez restreinte, qu'on cherche les espèces les plus faciles, les moins embêtantes, et puis surtout, on met un peu de vert sur les dessins pour faire joli, mais sans trop y croire.
Ouais.
Je caricature un peu, mais il y a de ça.
Il y a de ça, c'est-à-dire que c'est vrai que moi, j'ai un pied des deux côtés, c'est-à-dire que j'ai un diplôme d'architecte, et puis je suis devenu paysagiste. Et donc, j'ai vu ce qui se passait dans les deux mondes. Et on ne peut pas dire que les architectes soient très, très alertes, très, très éveillés sur la question du vivant. Donc la plante, bon, ben, du moment qu'elle fait son job, c'est bien. Donc ils prennent bien souvent des paysagistes qui vont choisir à leur place. Et alors là, se mettent en place toutes les règles, toutes les labellisations, toutes les réglementations, des contraintes de budget, des contraintes techniques, des contraintes de poids, des contraintes d'environnement, etc., qui vont faire qu'on réduit la liste à une peau de chagrin.
Ouais. Avec toujours les mêmes espèces qui reviennent, notamment,
oui,
vous dites, le bouleau a vraiment le vent en poupe. C'est vraiment la grande mode pour beaucoup d'architectes. Il a, ouais, plein d'avantages, le bouleau. Il prend pas trop de place, il grandit pas trop, il vit pas trop longtemps, il se contente de sols relativement pauvres. Mais il a un gros inconvénient que les architectes n'ont pas l'air de prendre en compte, c'est que... C'est le pollen. Beaucoup, ouais, de gens, et de plus en plus de gens, sont allergiques au pollen de bouleau.
Sont allergiques au pollen de bouleau, et il y a tout un tas d'autres pollens aussi en ville. Et c'est une véritable problématique. Au Japon, c'est devenu un fléau national. Toutes les forêts qu'on a plantées à l'après-guerre de Suji, qui sont des espèces de grands cryptomères, de grandes forêts de pins, vont dégager des milliers de grains de pollen par des nuages entiers entre février et mars. Et c'est à la même époque, évidemment, que les Japonais sortent dans les villes et font la fête d'Anami, c'est-à-dire qu'ils se mettent sous les cerisiers en fleurs, les fameux cerisiers de Benoît Poulvorde, ouais, pour regarder les floraisons de cerisiers. Et à ce moment-là, ils sont baignés dans des nuages de pollen et tout le monde éternue dans tous les sens. Donc il y a une connaissance de la plante à avoir, non seulement pour la faire survivre dans ce milieu très particulier qu'est la ville, et d'autre part, les interactions qu'elle peut avoir avec nous ou avec d'autres espèces. Mmh. Certains vont accueillir des espèces qu'on n'a pas envie de voir, voilà, des acariens, des araignées rouges, tout un tas de trucs, et d'autres vont nous rendre malades. Mmh.
Quelles sont les plantes, par exemple, auxquelles on ne fait pas assez de place dans nos villes, selon vous, aujourd'hui, et que l'on devrait mettre pour une meilleure santé des citadins?
Alors, il y en a une qui me plaît particulièrement. Je pense à ça parce qu'on parle justement de ces fourrures vertes, etc. Et bien souvent, sur les bâtiments, on a des choses qui ont besoin de soins et d'être sous perfusion pour tenir. Alors qu'il y a une toute petite plante qui s'appelle la ruine de Rome, Et la ruine de Rome, c'est une espèce de petite plante qui fait des fleurs bleues magnifiques, toutes petites, très subtiles. On l'a appelée comme ça parce qu'on l'a trouvée à Rome dans les ruines au XVIIe siècle et puis on l'a amenée chez nous. Et cette plante ne détruit pas les murs, ne demande quasiment rien. Elle va juste grignoter un petit peu ce qui tombe sur le mur ou dans les réfractuosités du mur. Et comme le lierre, elle est attirée par l'obscurité. Ça veut dire que quand elle aura fini d'être fécondée, la fleur va se refermer, va faire le fruit, et à ce moment-là, le bras de la fleur, la tige, va se replier et va chercher la zone d'ombre, c'est-à-dire la seule crevasse ou la seule fissure qui existe dans le mur, pour aller déposer ses deux graines. C'est là qu'elle est sûre d'avoir un terreau fertile. Donc ça demande pas d'entretien, ça demande pas. Et c'est un spectacle assez beau.
Oui. Et puis c'est assez minimaliste.
C'est petit.
Vous-même, Nicolas Gilsoul, est-ce que vous avez évolué depuis que vous voyagez, que vous observez la place que les villes font à la nature dans les différents pays du monde? Est-ce que vos pratiques, vos projets ne sont plus exactement les mêmes?
Ils ne sont plus du tout les mêmes. Je pense que j'ai beaucoup appris avec le bourdon et l'écureuil, mais j'ai beaucoup aussi appris avec les humains dans ces différentes villes. En quelques années, je suis un peu sorti du star system.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps, vous étiez impliqué dans des projets de forêts suspendues, des projets où on aurait perché des forêts sur des immeubles. Aujourd'hui, vous revenez un peu.
J'en reviens parce que je vois l'importance de travailler sur le déjà là, sur l'existant, sur le sol en place, avant de commencer à coloniser les toits, les parois, les cloisons, avec un grand renfort de technicité. Je pense que finalement, à budget égal, on peut faire beaucoup plus de choses dans l'espace public pour un plus grand nombre quand on travaille sur le socle urbain. Et donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est effectivement la découverte, par exemple, de la ruine de Rome, la découverte de certains oiseaux, la découverte de certains insectes qui font que ils ne sont là que parce qu'il y a une logique et une cohérence d'ensemble. Et quand un bâtiment ou un quartier devient le showman et exploite une très grande technicité pour se mettre en place, en réalité, on bouleverse tout cet équilibre. Donc, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Donc, j'en suis vraiment revenu.
Oui. C'est-à-dire que, en fait, l'architecte que vous êtes nous dit « Je veux de la pleine terre, enlevez-moi tout ce béton ».
Oui, et je pense qu'un projet, un bon projet aujourd'hui, est un projet qui agit par soustraction et pas par addition. Et ça, c'est très compliqué à comprendre. Mais c'est aussi le métier de paysagiste qui me l'a appris. C'est un métier dans lequel on a finalement une très grande humilité, très grande modestie, parce que ce qu'on fait, on ne le voit pas.
Merci Nicolas Gilsoul. Quelle leçon d'humilité. Il y a plein d'histoires à découvrir dans votre livre « Chlorophylle et bêtes de ville » aux éditions Fayard. Un grand merci à vous.
Merci.
Le temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédents épisodes en podcast sur franceinter.fr ou avec l'appli Radio France. Et pour nous laisser un message, il y a nos pages Instagram et Facebook. À samedi prochain pour de nouvelles aventures.